Bonjour, le soleil brille sur chaque village, même s'il est petit. Bonjour et bienvenue sur Positive Femme, l'émission où les femmes propagent des ondes positives. C'est l'émission sur BXFM qui met en avant des femmes qui agissent, qui font bouger les choses, quel que soit leur domaine d'activité. Ce sont donc des positives actrices parce que optimistes, surprenantes, agissantes, engagées, concrètes, exceptionnelles, bienveillantes, constructives, courageuses, fortes, inspirantes, libres, efficaces, impactantes, bref, l'émission qui fait du bien. Bonjour, je m'appelle Fatoumata Fati Sidibé, au micro de BXFM pour l'émission Positive Femme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Awatif Majid. Bonjour Awatif.
Bonjour Fatoumata.
Comment va la météo aujourd'hui interne ?
La météo en interne dans le studio, il fait très bon. À l'extérieur, c'est autre chose.
D'accord. Alors, on va commencer par savoir un peu qui vous êtes, Awatif. Qui êtes-vous en trois mots ? Qualificatif, positif.
Alors, qui suis-je ? Donc moi, je suis Awatif Majid. Je suis née à Düsseldorf, le 6/6/66. Et je suis la fondatrice de l'incubateur pour les femmes sans-abri Job Dignity. Et un qualificatif en trois mots. Bon, c'est toujours un petit peu compliqué de se qualifier.
Positivement.
Donc, je dirais spontanée. Je suis assez spontanée. Polyvalente. Pudique. Voilà, ce sont des adjectifs qui me qualifient plus ou moins.
Je vais bien le voir. Je dirais aussi passionnée par ce qu'elle fait, quand même. Alors, Awatif, votre association s'appelle Job Dignity. Pourquoi ce nom ? J'aimerais connaître la genèse de cette ASBL. Pourquoi et comment l'avez-vous lancé ?
Alors, le nom Job Dignity, donc Dignity du latin dignitas, qui parle donc d'honneur et de respectabilité, d'où le nom Job Dignity. Mais il est important de souligner que la dignité n'est pas en relation avec la dignité humaine. Ici, on parle plutôt du contexte, de l'environnement, des personnes sans-abri. Donc c'est ainsi que le nom Job Dignity a été attribué moyennant un vote avec des propositions faites aux personnes sans-abri qui ont choisi le terme. Mais évidemment, on ne parle pas de la dignité humaine en tant que telle. On parle plutôt de l'environnement qui est indigne par rapport à la question des personnes sans-abri et leur situation.
Et notamment, j'imagine, des femmes sans-abri.
Absolument.
En particulier.
Tout à fait. Donc ici, nous, dans notre cas, l'incubateur s'adresse aux femmes. Disons, il s'adresse aux hommes et aux femmes, mais principalement aux femmes, particulièrement aux femmes, qui sont donc des personnes invisibilisées dans la société.
Et pourtant bien présentes.
Et effectivement, bien présentes. Nous, c'est plutôt un choix qui s'est porté vers la gente féminine parce que, au départ du projet, quand on commençait tout doucement à installer les bases du projet, on avait énormément de visites de femmes sans abri, donc des personnes qui venaient au départ au cercle Victor Hugo pour prendre un petit café.
Et donc, comment ce projet est né ? Vous parlez du cercle Victor Hugo, c'était un cercle que vous aviez lancé, un cercle littéraire, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Et donc, le projet a germé dans ce contexte-là, donc on peut en savoir un peu plus.
Exactement. En fait, la question du sans-abrisme commence, qu'elle est un petit peu rentrée, on va dire, dans ma vie, pour le dire ainsi. J'ai ouvert un cercle littéraire en 2008, donc à l'avenue Stalingrad, qui est un quartier assez fréquenté par les personnes sans-abri. Et il se fait que dans ce cercle, il y avait un hall d'entrée. Et quand j'arrivais le matin, je trouvais des squatteurs sans-abri, donc dans ce hall d'entrée, chose qui ne me plaisait pas forcément. Mais la relation et puis le contact, la communication se faisait assez bien.
C'était quand ça ?
En 2008.
2008, d'accord.
En 2008. Et donc, je leur demandais gentiment de ne pas squatter le hall d'entrée, avec tous les clichés qui vont avec, parce que ça ne fait pas bien, ça fait du bruit, etc. Et puis, de fil en aiguille, les relations s'installent, on apprend à connaître des gens, des liens s'installent.
Les masques tombent.
Oui, absolument. Et puis, on découvre une réalité violente. Honnêtement, je ne suis pas partie de manière spontanée vers la cause du sans-abrisme. Je l'ai découverte, en fait. Je l'ai découverte avec leur réalité, avec les violences dont ces gens sont victimes et tout ce qui va avec. Et puis, de fil en aiguille, voilà, les gens me demandaient de monter prendre un petit café, si c'était possible, de faire un petit brin de toilette. Je leur ai ouvert la porte et depuis, on ne s'est jamais quitté.
D'accord. Et donc, c'est ainsi que l'ASBL a été créée, donc quelques années après, j'imagine.
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, donc en 2008 et 2009, il y avait beaucoup d'interrogations. Il y avait énormément de services de proximité qui étaient donnés, c'est-à-dire les accompagner pour des questions administratives, une recherche d'emploi, etc. Et puis, la question de créer une association n'est pas venue en interne. C'est des personnes, plusieurs personnes du milieu associatif et politique qui m'ont donc conseillé de créer une association pour pouvoir avoir du soutien.
D'accord.
Donc ça a été créé. Et malheureusement, suite à énormément de dossiers qui ont été introduits, on n'a jamais reçu de soutien. Mais voilà, ça ne nous a pas empêchés de continuer. On est toujours là aujourd'hui.
Et l'association aujourd'hui, est-ce qu'elle elle est située quelque part, donc dans un lieu physique ?
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ne voyant pas donc les subventions arriver, je me suis dit, bon, il faut quand même ouvrir ce centre. Et donc j'ai financé ce centre moi-même en faisant plusieurs prêts, d'abord au niveau de ma famille, de mes amis, ensuite au niveau des institutions. Donc des banques en l'occurrence. Donc j'ai ouvert ce centre, il fonctionnait très très bien. Et puis malheureusement, je n'avais plus les moyens de subvenir donc aux charges du bâtiment et en l'occurrence du loyer. Donc bah, forcément, les huissiers de justice sont arrivés, ont fermé ce centre et puis on s'est retrouvés à la rue. Ils ont saisi tout le matériel et puis depuis, on a squatté des bâtiments avec convention, sans convention. Et ensuite, il y a eu un appel à projet de la SNCB, un projet donc, pour occuper le tri-postal.
Le tri-postal Gare du Midi ?
À la Gare du Midi, d'accord. Exactement, et qui est une situation formidable en ce qui nous concerne, puisque le public cible gravite justement autour de la Gare du Midi. Donc on a envoyé un dossier à la SNCB. Après quelques mois, quelques longs mois, nous avons enfin reçu une réponse positive. Donc pour pouvoir occuper un espace...
De manière temporaire ou...
C'est de manière temporaire, terme. C'est une convention d'occupation temporaire pour 3 ans.
Très bien.
Donc on est déjà à 2 années d'occupation, il reste 1 année, et donc voilà, on fonctionne un petit peu comme ça en ce moment, en action-réaction, le temps de trouver un...
D'accord. Moi je souvenance qu'en 2018, lorsque j'ai eu vent de vos difficultés dans la presse, dans une autre vie, j'étais parlementaire, donc je me souviens avoir interpellé la première, je crois, au Parlement bruxellois par rapport à votre situation financière. Et donc, manifestement, ben, depuis 3 ans, la situation semble toujours aussi difficile, précaire au niveau financier.
Oui, alors, effectivement, c'est important de le souligner. Pardon, je prends 2 secondes la parole. C'est important de le souligner parce que c'était dans ce malheur de la fermeture justement de notre centre de formation. On a lancé à travers Belga donc un communiqué et à partir de ce communiqué, la première réaction c'était effectivement Fatoumata Sidibé. Donc, qui a interpellé les parlementaires et ensuite ça a été en cascade. Plusieurs partis, plusieurs députés, suite à ça, ont mis le focus. Donc déjà, merci, parce que c'était un grand soutien en tous les cas pour nous.
En tout cas, j'ai la suite dans les idées, ça c'est sûr.
Absolument.
Alors voilà, moi j'aimerais savoir maintenant, au niveau des actions que vous menez dans la SBL, quelles actions vous menez par rapport à l'accompagnement des femmes ? Parce que, si j'ai bien compris, l'objectif c'est la dignité via l'autonomisation financière et donc forcément via un emploi. Et quelles sont les actions que vous mettez en place ?
Alors concrètement, comme Job Dignity est un incubateur, c'est articulé sur 2 axes. Il y a ou la possibilité donc, de créer son emploi, donc de créer son projet. Ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que moi-même, je suis conceptrice de projet, donc ce qui facilite un petit peu les choses. Donc soit elles créent leur projet et on les accompagne avec des mécénats de compétences, avec des bénévoles, avec des personnes pensionnées, donc des personnes à la retraite, qui décident de donner de leur temps et encadrer ces personnes, soit la création de coopératives et à travers ces coopératives, par exemple, je pense à un des projets connexes de Job Dignity qui est donc la création d'une ligne de vêtements. Dans ce cadre-là, les personnes donc, créent leur coopérative et à partir de là, elles sont autonomes financièrement, et ce qui leur permet donc de sortir de la rue.
D'accord, donc vous avez déjà aidé plusieurs personnes à travers vos actions à sortir de ce cercle vicieux de la rue et du sans-abrisme en fait, concrètement.
Oui, à notre modeste échelle, on va dire, on a quand même réussi à pouvoir encadrer et accompagner une centaine de femmes. Donc sans-abri et des personnes assez précaires, on va dire. Donc oui, une centaine de femmes depuis le début.
Oui, c'est quand même... assez impressionnant.
Qui ne sont pas retournés à la rue, hein.
D'accord,
je tiens à le préciser.
Bravo, bravo en tout cas pour cette action de dignité au sorti, de prise en charge de sa propre vie. Et ça, c'est fondamental parce qu'on sait que le sans-abrisme, il a plusieurs causes. Et c'est vrai que le cas des femmes est particulier parce qu'il y a un faisceau de convergence qui s'accumule. Alors moi, j'aimerais savoir aussi, il y a eu le confinement, bien sûr, et j'aimerais savoir, est-ce que ça a eu un impact sur vos actions? Et si oui, comment?
Alors oui, c'est une très bonne question. Nous, on n'a pas connu le confinement. Nous ne l'avons pas vécu. Il y a eu une recrudescence, évidemment, de demandes qui se sont rajoutées donc, aux personnes que nous suivons de manière conventionnelle. Donc oui, nous n'avons pas vécu donc, le confinement. On l'avait vécu donc, sur le terrain. Dans la foulée de l'arrivée du Covid, nous avons créé un autre projet connexe de Job Dignity qui est Food Dignity et qui est donc une banque alimentaire et qui a permis jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle de pouvoir
venir en aide à des familles, donc en fait
à 2000 familles.
2000 familles,
oui,
ce sont des invendus, ce sont des collaborations.
Alors, ce ne sont pas des invendus parce que malheureusement, il y a quelques projets qui se sont mis en place et qui nous privent de récupérer ces invendus. Ce sont des projets, donc des applications qui récupèrent donc dans les grandes surfaces ces invendus et qui les revendent à moitié prix. Et donc, nous, on nous propose le reste des invendus, chose que nous n'acceptons pas étant donné que la denrée est totalement périmée. Au moment où on nous la propose. Donc en fait, nos sources de fourniture, ce sont des personnes privées. Donc c'est la famille, des amis, les amis des amis, etc.
D'accord. Et vous stockez vos invendus, pas vos invendus, vos denrées alimentaires, oui. Au centre du Tripostal, si je ne m'abuse.
Hein. Exactement. Donc nous les stockons au Tripostal et nous remercions ici, à partir de cette radio, Zineke Parade, qui a mis à notre disposition leurs locaux pour quelques mois. Et ça nous a permis donc et de créer cette banque alimentaire et de stocker les denrées parce que nous avons reçu quand même pas mal de denrées.
D'accord. Mais justement, j'avais une question par rapport au réseau. Donc forcément, avec un projet comme le vôtre, il y a des réseaux qui se forment avec le monde du sans-abrisme, culturel peut-être aussi, et aussi au niveau des associations de femmes. Donc vous avez sans doute aussi mis en place des partenariats dans ce sens-là.
Oui. On peut fonctionner. Et subsister que grâce au partenariat. Alors effectivement, là, les noms un peu m'échappent, mais il y en a énormément et on peut les consulter sur les réseaux sociaux, Twitter.
Et votre Facebook. Réseau social
C'est Job Dignity, donc Job Dignity en anglais, sur Twitter, Instagram, et c'est mis à jour sur Facebook également. Donc nous avons nos partenaires. Effectivement, il y a énormément d'associations de femmes, dont le Centre de Femmes francophones de Belgique qui nous soutient énormément.
Et le Conseil des femmes francophones de Belgique.
Le Conseil, pardon, de femmes francophones de Belgique. Bon, il y en a d'autres, hein, évidemment. Oui, nous avons pas mal de partenariats par rapport à des questions de dons matériels.
D'accord, voilà. De demandes très précises. Alors, j'ai vu que vous avez lancé une action qui s'appelle « Ni oui, ni non, ni banane ». Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Oui, alors le « Ni oui, ni non, ni banane », si vous voulez, c'est une manière à nous, faite maison, de lancer un crowdfunding, mais plutôt que de saturer déjà toutes les demandes sur les réseaux de soutien via le biais du crowdfunding, qui est très bien en demeurant. Mais nous avons plutôt préféré mettre en place une idée autre, donc, et en l'occurrence, le ni oui ni non, ni banane. C'est donc le concept du ni oui ni non, donc du fameux jeu ni oui ni non. Donc comment ça se passe sur le terrain nous nous rendons, donc nous sillonnons les différents événements de Bruxelles capitale, et nous nous rendons donc chez des gens et on les interpelle en leur demandant est-ce qu'ils souhaitent jouer au jeu ni oui ni non ni banane, et on leur explique évidemment le pourquoi.
Et ça consiste en quoi ?
Donc ça consiste en fait, on va poser quelques questions un petit peu, des questionnaires de Proust, dont la thématique est les pâtes, donc c'est important de le dire. On va parler de pâtes et des sauces, et à travers ces questions, les gens ont 120 secondes donc pour répondre sans prononcer oui, non et banane. Alors s'ils le prononcent, donc ils ont perdu, et ils s'engagent à faire un don, selon leurs moyens évidemment, à notre association.
Donc ils mettent la main à leur banane en quelque sorte.
Exactement, à la banane, ça c'est bien, je vais le retenir. Et par contre, s'ils ont perdu...
Enfin, je parle du sac... la banane.
Oui, tout à fait. Nous l'avons d'ailleurs posté sur nos réseaux, la banane.
D'accord. Et donc, l'action, donc, elle est ludique et elle a l'air de marcher. Enfin, oui. Malheureusement, avec le Covid, il n'y a quasi plus d'événements qui sont organisés, mais j'imagine qu'elle va continuer et reprendre de...
Alors, cette action est sortie en 2018 dans les médias. Donc, Belga a sorti l'info. Mais ensuite, il y a eu les gilets jaunes. Ensuite, il y a eu tellement d'actualités que nous avons été chaque fois obligés de reporter.
D'accord.
Et ensuite, il y a eu le Covid. Et puis là, maintenant, on se dit, on arrive un petit peu au bout du tunnel. Les activités, parce que nous sommes tributaires des événements.
Bien sûr.
À Bruxelles, culturels, tous ces événements qui s'organisent et qui étaient interrompus à cause du Covid. Donc là, on voit un petit peu, comme je vous disais, la lumière au bout du tunnel. Nous allons commencer à aller à l'encontre des gens et commencer à jouer ni oui ni non. Et puis voilà, faire son petit bonhomme de chemin en espérant récolter suffisamment de fonds pour pouvoir rouvrir notre centre.
D'accord. Donc vous avez entendu, si on vous propose le jeu ni oui ni non ni banane, vous devez jouer. Et... comme vous voulez, gagner ou perdre. En tout cas, vous êtes gagnant dans tous les cas.
Il y a une page Facebook, ni oui, ni non, ni banane. Vous pouvez consulter.
D'accord. Et alors, donner, c'est recevoir. On le sait, vous donnez beaucoup, bien sûr. J'aimerais savoir aussi tout cet engagement depuis des années par rapport à la cause du sans-abrisme. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous ?
C'est une question, Fatoumata, à laquelle je ne peux pas répondre. Je n'ai pas de réponse concrète. J'aurais aimé, une chose que je peux dire et confirmer, c'est j'aurais aimé de ne pas rencontrer un jour la problématique du sans-abrisme. J'aurais préféré, mais la vie en a fait autrement. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne suis pas spécialement philanthrope, mais je pense en tous les cas que chacun d'entre nous devrait consacrer, enfin la question du sans-abrisme nous concerne tous finalement, puisqu'on peut tous se retrouver à la rue, nos mamans, nos enfants, nous-mêmes, nos amis. Moi je pense que nous devons donner chacun, à la limite de nos possibilités, un peu de temps, consacrer un peu de temps à la question du sans-abrisme, pas uniquement en apportant des vivres ou en donnant à manger ou apporter des biens matériels, mais aussi voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour sortir les gens de la rue. Parce qu'in fine, une personne sans-abri, son seul souhait, c'est de sortir de la rue.
Tout à fait.
Et être indépendante.
Et donc, en fait, c'est ça un peu aussi ce message positif, c'est que chacun d'entre nous peut faire la différence et que chacun peut apporter une petite goutte qui va aller dans une rivière et se transformer, par exemple, en un fleuve. En tout cas, on a compris que c'est important de donner un peu de soi. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vous auriez une structure d'association que vous souhaiteriez mettre en avant, puisque le but, c'est vraiment de créer une chaîne positive.
Alors, il y en a beaucoup. C'est vrai que c'était difficile à choisir, mais finalement, mon cœur a penché, mon cœur et celui je parle ici aussi au nom de personnes sans-abri qui sont au courant que nous passons aujourd'hui chez vous. Donc, les Samaritains sont donc une association formidable qui distribue donc des denrées depuis, je pense, une trentaine d'années, et ils occupent avec nous le tri-postal tous les mardis. Donc voilà, c'est notre coup de cœur, ce sont les Samaritains qui nous soutiennent également. Donc on les remercie d'ici.
Merci aux Samaritains et merci à toutes ces personnes courageuses qui luttent pour sortir du sans-abrisme. Et enfin, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez un proverbe, un dicton positif pour clôturer cette interview?
Oui, je dirais, quand tout est fichu, il reste encore le courage.
Quand tout est fichu, il reste encore le courage. Merci beaucoup à Awatif Majid d'être venu partager avec nous aujourd'hui un rayon de lumière.
Merci
beaucoup.
BXM. Merci.
Merci à vous.